Gaston Bachelard, Radio. Aujourd'hui, la poésie et les éléments. L'air.
Nous sommes devenus si aériens, l'élément de l'air a imprégné si profondément notre être qu'un léger coup de talon contre le sol suffit à nous détacher de la terre.
Un des grands malheurs de ma vie inconsciente est d'être monté jusqu'à la lanterne de la Flèche de Strasbourg. J'avais 20 ans. Jusque-là, je ne connaissais que les modestes clochers de la campagne champenoise. Que de fois, j'avais profité d'une porte négligemment ouverte pour gravir à l'intérieur de la tour du clocher. Vivant sans crainte dans un monde d'escaliers et d'échelles, j'ai passé près de l'auvent des cloches bien des heures à regarder la belle rivière, les collines, les coteaux. La vue sur la colline que nous appelons à Bar-sur-Aube, la montagne Sainte-Germaine, donne un monde circulaire bien clos, dont le clocher est le centre. Quel décor pour y rêver l'impérialisme du sujet sur le spectacle contemplé. Mais à Strasbourg, l'ascension est brusquement inhumaine. En suivant le guide, dans l'escalier de pierre, le visiteur est d'abord gardé à main droite par les fines colonnettes. Mais subitement, très près du sommet, ce réseau ajouré des colonnes s'arrête. À droite, c'est alors le vide, le grand vide au-dessus des toits. L'escalier tourne si vite que le visiteur est bien seul, loin du guide. Alors, la vie dépend de la main sur la rampe. Monter et descendre, deux fois quelques minutes de vertige absolu. Et voilà un psychisme marqué pour la vie. Plus jamais je ne pourrai aimer la montagne et les tours, l'engramme d'une chute immense est en moi. Quand ce souvenir revient, quand cette image revit dans mes nuits, dans mes rêveries éveillées elles-mêmes, un malaise indéfinissable descend dans mon être profond. En écrivant cette page, j'ai souffert. En la recopiant, je souffre, comme d'une aventure neuve, réelle. Des psychanalystes chercheront peut-être des raisons morales à une telle sensibilité, mais rien n'explique à mes yeux que de si nombreuses impressions de vertige se soient liées à ce souvenir-là, si clairement précis, si nettement défini, si isolé dans mon histoire. À peine redescendu sur terre, la joie de vivre m'est revenue sans mélange. J'ai bu le vin du Rhin et les vins de Moselle avec, je pense, le sens délicat d'un hommage qu'ils peuvent recevoir d'un champenois. Mais toutes ces joies n'ont pas empêché le malheur psychique de se constituer en moi. Ma chute imaginaire continue à tourmenter mes rêves. Dès qu'un cauchemar angoissé revient, je sais bien que je vais tomber sur les toits de Strasbourg. Et si je meurs dans mon lit, c'est de cette chute imaginaire que je mourrai, le cœur serré, le cœur brisé. Gaston Bachelard, la terre et les rêveries de la volonté.
Des quatre éléments, l'air n'est sans doute pas celui avec lequel Gaston Bachelard a le plus d'affinité. Pourtant, après la psychanalyse du feu et l'eau et les rêves, il s'est attaché à rassembler et analyser les éléments épars du psychisme aérien dans l'air et les songes, publié en 1943 aux éditions José Corti. Le livre est sous-titré « Essai sur l'imagination du mouvement ». Du point de vue de l'imagination matérielle, notre enquête sera écourtée, dit Bachelard dans l'introduction, car l'air est une pauvre matière. Mais en revanche, avec l'air, nous aurons un grand avantage concernant l'imagination dynamique. Ici, le mouvement prime la substance. À l'air, en effet, appartiennent les exubérances dynamiques, légèreté, élan, saut, force gracieuse, liberté, Tels sont les mots qui reviennent sous la plume de Bachelard. Les plus beaux chapitres du livre sont selon nous ceux consacrés aux rêves de vol, point de départ de nombreuses croyances et d'innombrables développements poétiques, et à l'œuvre de Nietzsche, dont Bachelard dit qu'il est un poète vertical, ascensionnel, un poète des sommets. Froid, silence, hauteur, trois éléments fondamentaux pour saisir la spécificité de l'imaginaire nietzschéen, auquel Bachelard se plaît à opposer la douceur, la musique et la lumière par laquelle respire l'imagination d'un Shelley. Après une série de brèves études sur le ciel bleu, les constellations, les nuages, la nébuleuse, le vent chez les poètes, Bachelard aborde enfin, dans un chapitre intitulé « La déclamation muette », une analyse des rapports entre la poésie et le souffle. Gaston Bachelard a donné à la radio une causerie sur l'air. Elle a été diffusée le 6 décembre 1952.
À vrai dire, en me donnant pour tâche d'esquisser une poétique de l'élément aérien, je puis donner l'impression de me confier à un système philosophique, un factice. Mais il me serait facile de justifier mon attention précise à l'élément aérien si je pouvais, en marge de l'imagination poétique que j'étudie aujourd'hui, m'attacher à des documents d'inspiration alchimique. J'ai déjà fait remarquer que l'alchimie fut surtout, plus qu'une science de la matière inerte, une philosophie du monde et de l'âme intégrale. Une philosophie où le cosmos se présentait comme une réplique du microcosme humain. Alors, les spectacles du monde servaient à illustrer les mystères de la nature humaine. L'alchimiste matérialisait les images du poète. Mais tous ces problèmes demanderaient naturellement de longs débats. Ce que nous pouvons en retenir, c'est que l'élément aérien, dans la pensée alchimique, n'est nullement un élément évasif, inconsistant, superfétatoire. Il matérialise des forces cachées, des forces invisibles, d'autant plus solides et qu'elles sont invisibles. En tant que souffle, il est inscrit dans la nature humaine. Il a une valeur anthropologique. Et comme les valeurs anthropologiques fondamentales ne sont pas effacées par les valeurs scientifiques, nous pouvons être sûrs de ne point nous égarer si nous essayons de caractériser une poétique de l'élément aérien. Pour bien voir la positivité de notre problème, il suffit de ne pas négliger, comme le font tant d'anthropologues et tant de psychanalystes, le caractère psychiquement excitant de la poésie cosmique. Bref, si nous remettons à sa vraie place l'instinct poétique, si caractéristique de la nature humaine, si nous mettons la poésie au centre même des valeurs anthropologiques, nous allons voir que l'élément aérien est indispensable pour comprendre la participation enthousiaste du poète à la vie du cosmos.
Sous sa forme simple, naturelle, primitive, loin de toute ambition esthétique et de toute métaphysique, la poésie est une joie du souffle, l'évident bonheur de respirer. Le souffle poétique, avant d'être une métaphore, est une réalité qu'on pourrait trouver dans la vie du poème si l'on voulait suivre les leçons de l'imagination matérielle aérienne. Et si l'on donnait plus d'attention à l'exubérance poétique, à toutes les formes du bonheur de parler doucement, rapidement, en criant, en murmurant, en psalmodiant, on découvrirait une incroyable pluralité des souffles poétiques, aussi bien dans la force que dans la douceur, aussi bien dans la colère poétique que dans la tendresse poétique. On verrait en action une économie dirigée des souffles, une administration heureuse de l'air parlant. Telles sont du moins les poésies qui respirent bien. Telles sont du moins les poèmes qui sont de beaux schèmes dynamiques de respiration. Il est des mots qui, à peine prononcés, à peine murmurés, apaisent en nous des tumultes. Quand il sait les unir dans leur vérité aérienne, Le poème est parfois un merveilleux calmant. Le vers âpre et héroïque sait garder aussi une réserve de souffle. Il donne à la voix brève, qui commande une durée vibrante à l'excès de force, il donne la continuité. Un air tonique, une matière de courage, coule à flot dans le poème. Toute poésie, non seulement la poésie déclamée, mais la poésie lue en silence, est sous la dépendance de cette économie primitive des souffles. Les types imaginaires les plus divers, qu'ils appartiennent à l'air, à l'eau, au feu, à la terre, dès qu'ils passent de la rêverie au poème, viennent participer à une imagination aérienne par une sorte de nécessité instrumentale. L'homme est un tuyau sonore. L'homme est un roseau parlant. Gaston Bachelard, L'air et les songes.
Mêlées aux images matérielles de l'air, il faudrait classer toutes les images des odeurs, toutes les métaphores du souffle frais, du souffle balsamique. Dans cette voie, on dessinerait aisément un axe de dépassement du réel, comme pour le feu, comme pour l'eau, en utilisant le principe que nous avons montré toujours en action dans l'imagination des éléments. On trouverait aisément des images du souffle humain qui s'enflent pour atteindre les niveaux cosmiques, jusqu'aux images du vent et de l'ouragan et de la tempête. Mais nous retrouvons encore une fois les images de la puissance. Les éléments sont non seulement des principes matériels, ils sont aussi des principes dynamiques. Ils apparaissent comme les agents du drame cosmique, drame que les images poétiques revivent infailliblement. Mais la multiplicité des images de l'air est si grande que ces images donnent des symboles psychologiques très différents. Ainsi, l'air bleu, l'air tranquille, nous conseille le calme et nous donne les grandes images du calme et de la légèreté. Les êtres de l'air, les oiseaux, les arbres, nous sont autant d'images de la grandeur et de la légèreté. Et l'on peut mettre en évidence, inscrit profondément dans notre psychisme, je ne sais quel diagramme d'un monde ailé. C'est ce diagramme qui dirige certains de nos songes.
Nietzsche se désigne lui-même comme un aérien. Nuage d'orage, qu'importe de vous, à nous autres esprits libres, esprits aériens, esprits joyeux. Pour Nietzsche, l'air est la substance même de notre liberté, la substance de la joie surhumaine. L'air est une sorte de matière surmontée, comme la joie nietzschéenne est une joie humaine surmontée. La joie terrestre est richesse et pesanteur. La joie aquatique est mollesse et repos. La joie ignée est amour et désir. La joie aérienne est liberté. L'air nietzschéen est alors une étrange substance. C'est la substance en qualité substantielle. Elle peut donc caractériser l'être comme adéquat à une philosophie du total devenir. Dans le règne de l'imagination, l'air nous libère des rêveries substantielles, intimes, digestives. Il nous libère de notre attachement aux matières. Il est donc la matière de notre liberté. À Nietzsche, l'air n'apporte rien. Il ne donne rien. Il est l'immense gloire d'un rien. Mais ne rien donner, n'est-il pas le plus grand des dons? Le grand donateur, aux mains vides, nous débarrasse des désirs de la main tendue. Il nous habitue à ne rien recevoir, donc à tout prendre. N'est-ce pas au donateur, demande Nietzsche, de remercier celui qui a bien voulu prendre? Nous verrons par la suite, plus en détail, comment l'imagination matérielle de l'air cède la place chez Nietzsche à une imagination dynamique de l'air. Mais dès maintenant, l'on comprend que l'air est la véritable patrie du prédateur. L'air et cette substance infinie qu'on traverse d'un trait dans une liberté offensive et triomphante, comme la foudre, comme l'aigle, comme la flèche, comme le regard impérieux et souverain. Dans l'air, on emporte au grand jour sa victime, on ne se cache pas. Mais montrons le caractère matériel particulier de l'air nietzschéen. D'habitude, pour les imaginations matérielles, quelles sont les qualités les plus fortement substantielles de l'air ? Ce sont les odeurs. Pour certaines imaginations matérielles, l'air est avant tout le support des odeurs. Une odeur a dans l'air un infini. Pour un chélet, l'air est une fleur immense, l'essence florale de la terre entière. Bien souvent, on rêve à la pureté de l'air comme à un parfum à la fois balsamique et empyrématique. On rêve à sa chaleur comme à un pollen résineux, comme à un miel chaud et sucré. Nietzsche, dans l'air, ne rêve qu'à la tonicité, le froid et le vide. Celui qui sait respirer l'atmosphère qui remplit mon œuvre sait que c'est une atmosphère des hauteurs, que l'air y est vif. Il faut être créé pour cette atmosphère, autrement l'on risque beaucoup de prendre froid. La glace est proche, la solitude est énorme, mais voyez avec quelle tranquillité tout repose dans la lumière. Voyez comme l'on respire librement, que de choses on sent au-dessous de soi.
L'air et les songes, j'ai étudié longuement le rêve de vol. C'est un rêve très positif, mais très simple. Dans nos nuits heureuses, nous avons parfois l'impression que nous pouvons voler. Le plus souvent, le rêve de vol est un vol sans ailes, un vol sans mécanisme ailé, un vol qui n'a pas besoin, par conséquent, d'imiter l'oiseau, c'est-à-dire de copier la réalité. Nous sommes devenus si aériens, l'élément de l'air a imprégné si profondément notre être qu'un léger coup de talon contre le sol suffit à nous détacher de la terre. Nous nous mettons alors à planer, le plus souvent proche du sol. Si nous retouchons la terre, un nouveau coup de talon nous faire partir pour un voyage facile. Comme ce phénomène de notre être aérien est fondamental, il a fort peu de variantes, et en tout cas, le psychologue exercé n'a pas de peine à le dégager des circonstances annexes, des surcharges d'autres images. Au réveil, très curieusement, certains rêveurs s'étonnent de ne plus savoir voler.
Nous empruntons cet exemple au 11e rêve de Rilke. Document très pur au point de vue de l'imagination dynamique, puisque tout le récit est induit en partant d'une impression dynamique de légèreté. Puis vint une rue. Nous la descendîmes ensemble, du même pas, l'un contre l'autre. Son bras enlaçait mes épaules. La rue était large, matinalement vide. C'était un boulevard qui descendait, qui s'inclinait, tout juste assez pour enlever au pas d'un enfant son peu de lourdeur. Et elle allait, comme si elle avait eu aux pieds de petites ailes. Je me souvenais. C'était donc un souvenir d'une si grande douceur, un souvenir aux formes endormies, mais où demeure, si indestructible, une certitude de bonheur. N'est-ce point là le souvenir immense et sans date de l'état aérien, d'un état où rien ne pèse, où la matière, en nous, est nativement légère. Tout nous élève, tout nous soulève, alors même que nous descendons, tout juste assez pour enlever, au pas d'un enfant, son peu de lourdeur. cette jeunesse de la légèreté n'est-elle pas la marque de cette force confiante qui va nous faire quitter la terre, qui nous fait croire que nous allons monter naturellement vers le ciel, avec le vent, avec un souffle, emporté directement par l'impression de bonheur ineffable. Si vous trouvez dans vos rêves dynamiques ce minimum de pente, cette rue qui ne descend qu'un peu, si peu, que les yeux n'en verraient jamais rien, il vous poussera des ailes, de petites ailes aux pieds, votre talon aura une vigueur volante, légère, délicate. Votre talon, d'un bien simple mouvement, changera bientôt la descente en montée, la marche en essor. Vous aurez l'expérience de la première thèse de l'esthétique nietzschéenne. Tout ce qui est bon est léger, tout ce qui est divin court sur des pieds délicats.
Ces ailes au talon, ces talonnières, j'ai proposé de les désigner comme des images oniriques. Une fois qu'on a isolé une telle image fondamentale, une fois qu'on l'a dégagée de la contamination des ailes de l'oiseau, on a un bon outil d'analyse pour les images littéraires. Prenons par exemple une page de Shelley. Au fantôme de l'air, Shelley demande « D'où venez-vous, si sauvage et si léger ? Car des sandales d'éclairs sont à vos pieds et vos ailes sont suaves et douces comme la pensée. » Il y a un léger glissement des images qui mêle ici les ailes et les sandales d'éclairs. Mais ce glissement ne peut rompre l'unité de l'image. Ce qui est suave et doux, c'est le mouvement. Ce n'est pas l'aile ni les plumes de l'aile qu'une main rêveuse caresserait. Ainsi, l'image de Shelley doit être sentie comme un événement aérien de notre vie nocturne. D'une manière générale, si l'on sait garder le souvenir de cette existence aérienne révélée par le rêve de vol, un grand canton de la poésie des éléments peut être mis en pleine lumière. On comprend alors plus profondément les Rilke, les Shelley.
Au temps où j'écoutais mûrir les Mirabelles, je voyais le soleil caresser tous les fruits, dorer toutes les rondeurs, polir toutes les richesses. Le vert ruisseau dans sa légère cascade ébranlait les cloches de l'encolie. Un son bleu s'envolait, la grappe des fleurs lançait sans fin des trilles dans le ciel bleu. Je comprenais Shelley, et de ses lèvres, comme d'une hyacinthe pleine d'une rosée de miel, tombe goutte à goutte un murmure liquide qui fait mourir de passion les sens, aussi doux que les pauses de la musique planétaire entendues dans l'extase. Quand une fleur murmure ainsi, quand la cloche des fleurs résonne au sommet des ombelles, toute la terre se tait. Tout le ciel parle. L'univers aérien s'emplit d'une harmonie des couleurs. Les anémones aux couleurs si diverses colorent les quatre vents du ciel. La couleur se mêlait à la voix, aux odeurs, du temps où les fleurs parlaient.
Une sensibilité nouvelle en nous retrouve la sensibilité du poète. On comprend ce qu'il y a à la fois d'instant initial de vol et d'instant d'inspiration. Deux vers de Paul Éluard nous donnent cette étroite synthèse. Dans le livre ouvert, vous lirez « Attention, les plumes débordent, tu trembles de ne pas voler. » Voilà vraiment une image dynamique qui nous met à l'origine d'un mouvement, dans l'impulsion d'un mouvement imaginé, poétiquement imaginé. Cette image est bien une image absolue. Elle est un départ d'image. L'image de Paul Éluard a, pour un psychisme aérien, une vertu de sollicitation. Une poésie simplement cinématographique du vol nous laisserait à des impressions passibles. Elle nous dirait seulement les beautés d'un monde survolé. La véritable image aérienne met au contraire le vol au cœur de notre être.
Pourquoi une verticale du champ a-t-elle une si grande puissance sur l'âme humaine? Comment peut-on en recueillir une si grande joie, une si grande espérance? C'est peut-être parce que ce champ est à la fois vif et mystérieux. Déjà, à quelques mètres du sol, l'alouette poudroie dans la lumière du soleil. Son image vibre comme ses trilles. On la voit se perdre dans la clarté. Pour formuler cette éclatante invisibilité, ne pourrait-on pas accueillir dans la poétique les grandes synthèses du génie scientifique? On dirait alors, dans l'espace poétique, l'alouette est un corpuscule invisible qu'accompagne une onde de joie. Gaston Bachelard, L'air et les songes.
C'était la poésie et les éléments, l'air. Gaston Bachelard, Causerie 1952. Document INA recueilli par Suzanne Legrand. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Texte lu par Claude Royer-Journoux. Collaboration technique, Michel Créis. Un rêveur de mots. Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique. Deuxième partie. Cette semaine, philosophie de l'atome. Aujourd'hui, les caractères philosophiques de l'alchimie. L'imagination créatrice chez Carl Gustav Jung. Entretien de Gaston Bachelard avec Michel Tournier et Doctrine des éléments chimiques.
Nous donnons donc aujourd'hui pour tâche de définir le caractère philosophique de l'alchimie. Il faut pour cela garder présente à l'esprit trois types de pensées qui ne sont guère actives dans la science chimique contemporaine. Premier caractère, l'alchimie est plus fonctionnelle que substantialiste. Elle s'occupe plus des fonctions que des substances. Deuxième caractère, l'alchimie est plutôt une doctrine de l'univers qu'une doctrine de la matière. Troisième caractère, l'alchimie est solidaire d'une culture psychologique plutôt que d'une culture objective. Reprenons ces trois caractères philosophiques qui vont nous permettre de classer bien des remarques faites par les historiens des sciences. En ce qui concerne le caractère fonctionnel, on sait que tout alchimiste fonde ses travaux sur l'idée de transmutation des corps. Il y a, pour un alchimiste, une échelle de perfection des substances, et la vie métallique est une lente et naturelle tendance vers la perfection de l'or. Il faut donc considérer un devenir de la substance simple, devenir tout à fait étranger à la stabilité attribuée aux atomes par la philosophie atomique contemporaine. Ce devenir du minéral est un devenir de germe à fruit. Rien de plus commun dans les livres d'alchimie que la notion de maturité, de maturation des substances. Et si l'alchimiste cherche à produire de l'or en partant du plomb, c'est parce qu'il espère pouvoir hâter une maturité métallique naturelle. Les physiciens modernes aiment à dire que la science contemporaine a réalisé le vieux rêve des alchimistes en opérant, par exemple, la transmutation du mercure en or. Mais la philosophie des transformations modernes est bien différente. La science moderne, résolument atomistique, opère des transmutations vraiment discontinues. Elle ajoute ou elle retranche des électrons, des protons, bref, des atomes physiques. L'alchimiste, au contraire, rêvait à une transformation continue sur le principe même de la vie. Passons maintenant au deuxième caractère et rendons-nous compte que l'alchimie est avant tout une cosmologie. En effet, pour l'alchimiste, la vie métallique est solidaire de la vie universelle. Les astres envoient à la Terre des influences matérielles, c'est-à-dire des matières subtiles qui viennent aider à la croissance métallique. Dans les opérations de laboratoire, un alchimiste croit donc devoir tenir compte de l'état du ciel. Prenons par exemple le plan des correspondances de Paracelse. Il est d'autant plus intéressant qu'il dépasse même la correspondance astrologie-alchimie. Il ajoute en effet à la correspondance métal-planète une correspondance entre les planètes et les organes du corps humain. De cette triple correspondance découlent des instructions médicales qui permettent de déterminer astrologiquement et alchimiquement le remède approprié à un organe particulier. Il ne faut donc pas s'étonner si une ambition plus grande encore se fait jour dans l'esprit de l'alchimiste. Et c'est alors qu'intervient le troisième caractère philosophique que nous avons signalé au début. L'alchimie est une doctrine des valeurs morales. De même qu'on a distingué une magie blanche et une magie noire, il faut distinguer une alchimie blanche et une alchimie noire. L'alchimie blanche appelle le chercheur à la vie morale, et l'alchimie noire est faite de sortilèges qui veulent satisfaire la cupidité. Si l'on étudie avec soin les textes alchimistes, on ne peut méconnaître l'idéal moral qui les anime souvent. La pierre philosophale n'est pas pour rien appelée par beaucoup d'alchimistes la pierre des sages. Le psychanalyste Jung a publié en 1944 à Zurich un admirable livre sur les rapports de l'alchimie et de la psychologie. Ce livre a pour titre « Psychologie und Alchemie ». En lisant un tel ouvrage, on se rend compte qu'une étude vraiment objective de la matière réclame une psychanalyse de la connaissance. On dit trop vite que l'alchimie prépare la science chimique. Nous avons tenu à bien séparer la philosophie propre à l'alchimie et la philosophie qui doit s'éduquer en suivant la science moderne.
Et tout de suite, un petit détour. Gaston Bachelard, 1955.
En condensant
ou d'un trop bref hommage, les leçons si diverses que le philosophe peut tirer de l'œuvre considérable de Jung, je dirais d'abord que cette œuvre oblige le philosophe à intégrer la psychologie dans la métaphysique. Par cette intégration, la métaphysique devient une métapsychologie. Seule une psychologie élargie, la psychologie de l'homme total et concret, avec toutes ses puissances de pensée et toutes les inventions de ses songes, peut nous permettre de poser les problèmes métaphysiques du destin de l'homme dans le monde. Dès lors, pensée et image, raison et imagination doivent trouver une activité synthétique. Avec Jung s'introduit, à côté de la traditionnelle ontologie des essences, une véritable ontologie des images. Je voudrais indiquer les traits philosophiques les plus marquants de cette ontologie de l'image dans la philosophie de Jung. S'il y avait une faculté négligée par les philosophes, c'était bien l'imagination. Nombreux étaient les philosophes qui la tenaient pour une maîtresse d'erreurs et d'illusions. Pour eux, l'image était un être psychique trop éphémère pour avoir droit à une étude ontologique. Il suffit cependant de considérer l'homme tel qu'il est pour sentir le dynamisme singulier de son imagination. L'homme vit plus souvent dans le monde d'images que dans un monde de pensées. Les images sont des centres de conviction. Elles lient entre elles les croyances dispersées. Si nous ouvrons les livres de Jung tels que Paracelsica, Psychologie und Alchemie, hélas non encore traduit en français, ou encore le livre Les Métamorphoses de l'âme et ses symboles, dans la belle traduction récente d'Yves Lelay, nous voyons que les illustrations elles seules de ces livres font leur travail psychologique. Elles font corps avec le texte. Et dans ces gravures, on vit l'action non pas seulement historique, mais psychologiquement actuelle des images. Signalons d'ailleurs une remarque importante faite par Jung dans le livre sur les métamorphoses de l'âme. Jung propose de substituer au terme complexe, si célèbre dans la psychanalyse d'aujourd'hui, le mot « image ». Par cette seule remarque, qui est passée inaperçue de bien des psychanalystes, Jung nous fait entrevoir une synthèse du complexe et de la sublimation. En effet, les complexes, centres de dynamisme psychique, ont besoin d'images pour se manifester. Les images font varier les manifestations du complexe. Mais en revanche, les images qu'une psychologie superficielle pouvait tenir pour fugaces et contingentes nous apparaissent comme fortement enracinées dans le psychisme humain. Les images aussi ont une hiérarchie et Jung, sans relâche, s'est efforcé d'élucider cette hiérarchie pour trouver les images fondamentales, celles qui sont vivantes en tous les siècles, en tous les hommes de races et de cultures différentes. Ce sont ce qu'il appelle, c'est bien connu, les archétypes de l'imagination. Et c'est ainsi qu'une histoire de l'alchimie se révèle être un livre de psychologie, non pas une psychologie usée, perdue dans le lointain passé, mais une psychologie de l'homme actuel, à condition, bien entendu, que dans l'homme actuel, on considère l'homme dans son intégralité, avec ses rêves et ses pensées. Il est frappant qu'on confonde généralement la rêverie et le rêve. C'est sans doute en raison de la pauvreté du vocabulaire psychologique qu'on fait cette confusion. Mais l'art est fait de plus de rêveries que de rêves. Il est fait de rêveries élaborées, de rêverie méditée. Avec Jung, nous ne restons donc pas au niveau du spontané, ni au niveau du symbole ancré dans les rêves de l'homme nocturne. Nous entrons dans le règne de l'art, où le symbole doit séduire l'homme par sa nouveauté et sa beauté. Ainsi, de toutes les psychologies contemporaines, c'est celle de Jung qui envisage l'être humain, sans doute dans sa plus grande dimension, puisque Jung s'efforce de déterminer à la fois l'énergie psychique des origines et les forces actuelles, très actuelles, qui travaillent le destin toujours ouvert de l'être humain.
Entretien de Gaston Bachelard avec Michel Tournier, 1950.
L'œuvre de M. Gaston Bachelard se présente comme un diptyque dont l'un des volets est consacré aux choses de la science, l'autre aux rêveries des alchimistes et à la poésie. D'un côté, le nouvel esprit scientifique, la philosophie du nom, le pluralisme cohérent de la chimie moderne, le rationalisme appliqué. De l'autre, la psychanalyse du feu, l'eau et les rêves, l'air et les songes, les images de la terre. M. Bachelard semble avoir fait ainsi l'inventaire complet des ressorts et des rouages de la pensée et de la sensibilité humaine. Pourtant, cette division, cette bipartition de la sphère de l'Homo sapiens en deux hémisphères que tout oppose, n'est pas sans faire surgir un problème. Monsieur Bachelard arrivera-t-il jamais à recoudre ce qu'il a si bien coupé? Nous donnera-t-il un jour un livre qui s'intitulera, ou qui pourra s'intituler, Poésie et vérité? Car ces livres ne cessent de nous répéter jusqu'ici que nos rêveries sont des erreurs et que la vérité n'est pas belle, ni laide d'ailleurs, mais incolore et non sensible, abstraite. Et tout d'abord, monsieur, pensez-vous que la connaissance scientifique a pu naître de la connaissance vulgaire, ou bien est-ce au contraire contre la connaissance vulgaire qu'elle a pris naissance? La science approfondit-elle seulement la connaissance immédiate, ou bien lui fait-elle subir une conversion radicale?
Je ne pense pas que nous trouverons les traits caractéristiques de l'Homo sapiens en nous confinant à la préhistoire. La science est un si puissant facteur d'évolution que nous pouvons tout de suite mettre notre discussion sur le plan moderne. Il est alors évident que la culture scientifique ne se développe pas en continuité avec la connaissance vulgaire. Les sciences physiques et chimiques demandent une réforme totale de nos connaissances usuelles. Elles nous proposent, ces sciences, l'étude des phénomènes rares, et l'étude expérimentale n'a de sens qu'en fonction d'une théorie, souvent trop abstraite, des théories qui ne peuvent s'exprimer clairement qu'en un langage mathématique complexe. L'aspect présent du problème que vous me posez est donc très net. La dissertation comptait encore dans les manuels montrer la continuité de la connaissance du sens commun et de la connaissance scientifique est, à mon avis, périmée. À mon sens, la connaissance actuelle, trop facilement satisfaite, peut faire même obstacle à la compréhension scientifique des phénomènes.
C'est donc à la suite d'un certain ascétisme, d'un certain anti-sensualisme de la pensée, qu'est apparu au cours des siècles l'Homo sapiens. Mais je voudrais vous demander, quelle est la nature paradoxale de cet ascétisme? L'esprit scientifique est la dernière forme d'une certaine attitude de refus de l'immédiat et du sensible, la conversion la plus récente d'une faculté d'ascèse qui est elle aussi vieille que l'humanité. Mais quelle est selon vous la nature et l'origine de cette nouvelle forme d'ascétisme?
Le mot ascétisme peut surprendre. Par exemple, la pensée abstraite a pour un mathématicien de telles puissances de séduction qu'on comprend et qu'on y voue sa vie. En fait, les valeurs de la science sont pour un savant si intimement intégrées à la culture qu'il s'étonne toujours quand, de l'extérieur, on les met en question, quand on les qualifie d'abstraites. Pour un véritable homme de science, on peut dire que la science est une nouvelle nature. C'est pour cela que la science me semble, dans notre siècle même, dégager le véritable destin de l'homo sapiens.
Je voudrais maintenant, monsieur, vous poser une question qui s'est certainement présentée à l'esprit de beaucoup de vos lecteurs. Votre centre d'intérêt ne s'est-il pas déplacé? Votre intention première était, je crois, de dépouiller certains objets particulièrement séduisants, le feu, l'air, l'eau, la terre, d'un dépôt en quelque sorte, que l'imagination, la poésie, l'alchimie, etc., avaient accumulé sur eux. Il fallait dépouiller d'une gangue impure ce qui devait être appelé à devenir un objet de science. Or, cette gangue poétique, qui ne devait être qu'un sous-produit de votre recherche, n'a-t-elle pas pris peu à peu la première place dans votre travail? Les préoccupations épistémologiques, dont vos études psychanalytiques étaient parties, n'ont-elles pas peu à peu cédé le pas à un véritable intérêt esthétique? En d'autres termes, ces ouvrages, qui s'annonçaient comme des musées d'horreur, l'expression est de vous-même, ne sont-ils pas devenus peu à peu des musées de merveilles?
Bien sûr, les 5 ouvrages que j'ai consacrés à l'étude de l'imagination manifestent une évolution évidente. Je les considère actuellement comme des livres d'apprentissage. On peut les juger trop systématiques. Ils sont cependant sincères. J'ai essayé de vivre toutes les images que je plaçais minutieusement, d'en éprouver de mon mieux la poésie intime.
S'il en est ainsi, on peut donc assigner une nouvelle tâche à l'homo sapiens, celle de réfléchir sur ses rêves, considérés au fond comme des objets de pensée valables et non plus comme de simples obstacles épistémologiques à écarter.
Si nous voulons comprendre les mythes et l'histoire irrationnelle de l'homme, il nous faut répertorier les valeurs oniriques, les valeurs de la nuit. Que ce soit pour en indiquer la puissance ou pour en utiliser les forces profondes, il nous faut connaître les complexes qui nous, nos convictions, et qui donnent une puissance dynamique à notre action dure.
Ceci nous permet d'aborder l'un de ses aspects les plus essentiels, je veux dire, la spéculation pure.
L'homme, dans certaines de ses spéculations, arrive à se détacher de ses intérêts les plus manifestes. Et l'homo mathematicus rejoint, me semble-t-il, l'âme de Spinoza. Je crois que la philosophie a pour tâche essentielle une intégration générale de toutes les valeurs humaines. Il lui faut alors intégrer à la fois les valeurs de raison et les valeurs d'imagination. Après avoir travaillé dans ces deux domaines de valeurs, je sens moins les premières contradictions, les contradictions apparentes.
Gaston Bachelard, 1948.
Comme l'atomisme est lié aux conceptions de la substance, il nous a fallu rappeler toute l'histoire des idées touchant la matière, et nous avons dû faire un assez long détour pour exposer la doctrine des 4 éléments, la doctrine des 3 principes de Paracelse, et caractériser les ambitions cosmologiques de l'alchimie. Toutes ces longues tentatives pour connaître les phénomènes matériels étant rappelées,
il nous faut maintenant aborder l'histoire des pensées proprement scientifiques et voir comment s'est fondé l'atomisme de la chimie moderne. C'est vraiment avec Lavoisier que l'on a atteint à une définition positive des corps simples, à une définition de ce qui sera désormais la doctrine des éléments chimiques. Cette définition est très prudente. Elle consiste à dire qu'on tient pour simple un corps qu'on n'a jamais pu décomposer. En principe, on n'écarte pas la possibilité qu'un corps tenu pour simple dans un état de la science puisse par la suite se révéler comme multiple, comme composé. Mais enfin, le nombre des analyses chimiques devient si grand que l'on acquiert bientôt la conviction que les corps désignés comme simples au cours du XIXe siècle sont effectivement simples. La balance est depuis Lavoisier l'instrument qui vérifie l'analyse. On ne se contente plus de peser des substances solides, on pense à peser les gaz. Dans une conférence antérieure, nous disions que pour Humbert, le cinabre était du mercure qui a été haché par la lumière et qui a pris de ce fait une structure hérissée. Avec Lavoisier, on sait maintenant que le cinabre est un corps composé qui contient deux éléments chimiques, le mercure et l'oxygène. La balance permet de préciser les rapports pondéraux de ces deux composants. En désignant les éléments par des symboles, on peut maintenant écrire des équations chimiques. On dit, pour exprimer la composition du cinabre, Hg plus O égale HgO. Et cette équation traduit aussi bien les résultats de l'analyse que les résultats de la synthèse. Les deux expériences d'analyse et de synthèse se vérifient l'une l'autre. Cette double expérience de laboratoire n'est plus influencée par des vues cosmologiques. Le règne de l'alchimie est terminé, la science chimique commence. Nous allons voir se former l'atomisme chimique. Dès le début du XIXe siècle, le chimiste anglais Dalton suppose que tous les éléments chimiques sont des corps insécables. Par là s'explique pour lui le fait que les proportions du mercure et de l'oxygène dans le cinabre sont constantes. Dalton formule donc la loi des proportions rigoureusement définies. Il a lutté contre des chimistes comme le chimiste français Berthollet, qui admettait la possibilité de certaines fluctuations dans les compositions chimiques. Dalton ajoute d'ailleurs bientôt la loi des proportions multiples. En effet, certains éléments comme l'azote et l'oxygène peuvent s'unir pour donner des composés chimiquement très différents. Mais l'analyse qui détermine les deux composés donne toujours la même proportionnalité. On comprend facilement cette loi des proportionnalités multiples si l'on applique l'hypothèse atomique. Si dans un cas, un atome d'azote s'unit à un atome d'oxygène, et que dans un deuxième cas, un atome d'azote s'unit à deux atomes d'oxygène, il devient évident que le deuxième corps contient deux fois plus exactement d'oxygène que le premier. À ces deux lois de Dalton, le chimiste suédois Berzelius ajoute une troisième loi importante qui s'énonce ainsi. Si deux corps s'unissent à un même troisième dans certaines proportions, ils s'unissent entre eux dans les proportions mêmes où ils s'unissent individuellement au troisième. C'est sur ces trois lois des proportionnalités définies, des proportionnalités multiples et des proportionnalités réciproques que s'est fondée la doctrine des poids atomiques. Le terme de poids atomique est d'ailleurs captieux. Il ne désigne pas le poids absolu d'un atome et le système des poids atomiques doit être considéré comme un tableau qui indique les poids relatifs des substances chimiques qui se combinent entre elles. La chimie a connu une période positiviste où on écartait l'hypothèse atomistique. On parlait cependant des poids atomiques. étant bien entendu qu'il s'agissait d'un système de nombres proportionnels indiquant des résultats d'analyse chimique de laboratoire. Si l'on ne suit pas dans le détail historique la détermination des poids atomiques, on ne peut se rendre compte de l'ampleur et de la minutie des recherches de laboratoire. Et des générations de chimistes y ont consacré leur vie. On peut vraiment dire que la détermination précise des poids atomiques correspond à un des plus grands efforts de l'expérience humaine. Le problème n'est pas en effet philosophiquement aussi simple que l'imagine une philosophie réaliste. Il ne suffit pas de dire que l'atome d'un élément a une individualité pondérale, qu'il a un poids bien net. Tout serait simple, sans doute, si l'on pouvait peser un atome ou un nombre bien compté d'atomes. En fait, cette individualité pondérale, il faut toujours l'inférer, la déduire. Et cette inférence est parfois pleine de difficultés. Plusieurs choix restent possibles. Il y a des ambiguïtés à lever. Pour cela, le chimiste a recours à des lois physiques bien éloignées du problème strictement chimique. Citons par exemple la loi de Gay-Lussac relative aux densités des gaz, la loi de Dulong et Petit relative aux chaleurs spécifiques, les lois de la cryoscopie de Raoult. Ainsi, une notion qu'un philosophe réaliste peut considérer comme très simple est d'une exploitation particulièrement ardue. Quand on voit la somme et la diversité des expériences qui sont nécessaires pour fixer un seul poids atomique, on se rend compte que la philosophie chimique est une philosophie complexe. Elle a besoin de solidariser des hypothèses, des théories et des expériences. On en juge mal en n'en retenant que le résultat matériel. Dans la chimie, le rôle du raisonnement est immense.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique, rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983, suivi de Gaston Bachelard, bis, archive. Cette semaine, la philosophie de l'atome. Aujourd'hui, les caractères philosophiques de l'alchimie, 1948.